Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. Les manifestations monstres dans les rues de Tbilissi n'y ont rien changé. Le Parlement géorgien a définitivement adopté la loi sur l'influence étrangère. Le texte est directement inspiré de la législation russe sur ce que l'on appelle les agents de l'étranger, un véritable été noir à dissidence depuis une grosse dizaine d'années. Bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous sommes avec le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Les agents de l'étranger, le Kremlin les vise légalement depuis 2012. Et puis, si pour nous les Occidentaux, ça appartient vraiment au vocabulaire des films d'espionnage, pour les Russes, c'est une réalité assez concrète et surtout assez effrayante. D'abord, posons le cadre, Paul. Est-ce que tu peux nous définir, au sens de la législation russe, ce qu'est un agent de l'étranger ?
Oui, on ne parle pas d'espionnage, on ne parle pas d'espion, on parle tout simplement de citoyens qui sont accusés d'être financés par l'étranger. Et financés par l'étranger, ça fonctionne à partir du premier rouble. On a vu des situations ces dernières années dans lesquelles des Russes étaient même accusés d'avoir reçu par destination de l'argent de l'étranger, par exemple, quelqu'un qui va exposer dans un musée. Et les autorités russes décident que le musée, ou rappellent que le musée a reçu 1 000 euros, 2 000 euros il y a 10 ans d'une aide étrangère qui voulait financer de la culture en Russie. Eh bien, les autorités russes, c'est pour dire à quel point ça peut être interprété de façon très large par les autorités russes, on comprend, peuvent parfois aller accuser des gens qui donc ont reçu de l'argent il y a longtemps ou indirectement, mais en tout cas de l'argent qui vient de l'étranger. Et donc le sous-entendu, évidemment, c'est vous tentez de déstabiliser l'intérieur du pays en travaillant, recevant de l'argent dans l'intérêt d'une nation étrangère. Et une nation étrangère, dans le vocabulaire russe, c'est forcément ennemi ou en tout cas opposé aux autorités russes.
Ou inamical, comme on dit dans exactement. La traduction un peu française. C'est une loi qui date de 2012. Techniquement, qui décide que tu es un agent de l'étranger ?
Je te préciserai au passage, parce que j'ai oublié de le dire, mais que les Russes, pour vendre, on va dire, les autorités russes, pour vendre cette loi auprès des Russes, ont rappelé quand même que cette loi est apparue en premier lieu aux États-Unis. Évidemment, elle n'a pas du tout les mêmes conséquences, les règles ne sont pas du tout les mêmes aux États-Unis, mais on sait comment les Russes aiment expliquer qu'il y a un double standard dans le monde, et donc au passage, quand nous, Occidentaux, on est amenés à critiquer cette loi, eux rétorquent qu'elle existe aussi aux États-Unis. Concrètement, ce sont des services de l'État, le ministère de l'Intérieur, qui reçoit, c'est un peu flou, hein, mais qui doit recevoir des demandes, certainement des services de renseignement, le FSB, qui est le service qui surveille la population russe au quotidien dans toutes les régions de Russie, dans toutes les villes de Russie, et qui considère qu'il faut s'attaquer à telle ou telle personne. Je dis ça comme ça parce que c'est évidemment pas quelque chose... tous les Russes qui reçoivent de l'argent de l'étranger ne sont pas agents de l'étranger. Il y avait évidemment des Russes qui sont ciblés. Et c'est ce qui était très intéressant dans ce processus, c'est que les Russes qui sont nommés agents de l'étranger, à chaque fois, ça correspond à des mouvements, parce que ce sont des personnes ou des organisations ou des sociétés ou des médias qui, à un moment donné, dérangent le pouvoir. En clair, c'est l'opposition russe qui est visé par cette loi d'agent de l'étranger. Depuis 2012, il y a 600 personnes et organisations qui ont été qualifiées d'agents de l'étranger. Depuis le début de la guerre, j'ai regardé tout à l'heure, le nombre de personnes nommées agents de l'étranger a été multiplié par 3,5. Donc on comprend qu'il y a une nécessité à s'en prendre à l'opposition qui est encore plus présente depuis le début de la guerre en 2022. C'est comme ça que fonctionne cette loi. C'est une façon de créer des boucs émissaires dans l'opposition russe.
Ah justement, tu disais, et tu as bien utilisé le verbe « nommer agent de l'étranger » et tu viens de dire « bouc émissaire ». C'est important parce que tu es en train de m'expliquer que cette liste, elle est publique et il s'agit de faire du « name and shame » comme on ne dit pas en Russie, mais plutôt dans le monde anglo-saxon.
Exactement, tu fais bien de le préciser parce que c'est la base en fait de cette loi. C'est de mettre un marqueur sur ces gens-là pour les rendre infréquentables. Et c'est concret, c'est-à-dire que moi j'ai des confrères russes qui sont agents de l'étranger. Du jour au lendemain, ils ont perdu leurs sources au Kremlin, dans les régions, les gouverneurs ne leur parlent plus, plus personne ne leur parle. Parce que personne ne comprend vraiment ce que ça implique. En tant que tel, on risque rien à répondre à quelqu'un qui est agent de l'étranger, sauf que vous devenez radioactif par définition. Et donc, vous savez que vous pouvez quand même attirer le regard des autorités du FSB si vous vous adressez la parole à ces personnes-là. Donc, bah, vous ne le faites plus. Ces gens-là sont mis de côté, sont pointés du doigt. Alors, évidemment, beaucoup d'observateurs critiques de la situation, eux, considèrent que c'est presque un diplôme, une
Une
médaille,
légion
quoi.
d'honneur, oui.
Légion d'honneur. Parce que, effectivement, quand on regarde la liste des agents de l'étranger, c'est un peu le meilleur de la société russe qui est pointé du doigt par les autorités russes.
Mais ça se passe comment? C'est une liste
Alors, c'est une annonce, un communiqué de presse qui est fait par les autorités russes tous les vendredis soirs, à peu près. Donc, c'est un petit. En en parlant tout à l'heure, tous les deux, je me suis rendu compte que c'était un réflexe que j'avais parce qu'en fait, juste les informations arrivent jusqu'à nous tous les vendredis soirs. On a un moment où la presse russe annonce telle organisation, telle personne a été nommée agent de l'étranger. Récemment, c'est pas rien, il y a le comité des maires de mobilisés qui a été nommé vendredi dernier. Poutdamoy, ça s'appelle. Retour à la maison. On comprend qu'en ce moment, c'est le style d'organisation qui pose des problèmes au Kremlin. Et c'est intéressant parce que là, on est loin de l'opposition, on est loin de la presse critique du pouvoir. C'est vraiment des Russes lambda qui sont pointés du doigt par leur propre État. C'est quand même de ça dont il s'agit. Donc c'est assez fou finalement quand on y pense. Voilà, il y a Ekaterina Dountsova, ancienne candidate à la présidentielle, qui elle aussi a été nommée agent de l'étranger. Voilà, toute la presse russe y est passée,
Moi, ce
déjà.
que je trouve fou, pardon, Paul, c'est que on part du principe que tous les vendredis, il va y avoir de nouveaux noms sur la liste. Dans d'autres, on va pas forcément parler d'agents de l'étranger, mais typiquement en France, il y a un certain nombre d'affaires. On en parle encore en ce moment d'ingérence, étonnamment venue de Russie, mais les ingérences, elles peuvent venir de partout. Mais évidemment, c'est très concret vis-à-vis d'une affaire. On n'est pas tous les vendredis dans les journaux avant le week-end avec une annonce. En Russie, on part du principe qu'il va y avoir cette liste. C'est assez effrayant.
Oui, ça dépend pas d'un acte que vous allez réaliser, effectivement. Et moi, j'ai des amis qui, tous les vendredis, sont vigilants, regardent si leur nom apparaît pas dans cette liste, parce que je crois savoir que on n'est pas forcément instantanément prévenu. Je crois qu'on l'apprend dans la presse quand on est concerné. Il n'y a pas quelqu'un, la police vous appelle pas en vous disant à partir d'aujourd'hui, vous êtes agent de l'étranger.
Mais ça peut être, c'est le vendredi, tu n'as pas pris le temps, tu es parti déjà en week-end, et le samedi, il y a déjà des gens qui peuvent te regarder de travers, ou des gens qui ne répondent plus au téléphone, qui l'ont appris avant toi.
Exactement, exactement. Et une fois que tu es sur cette liste, il faut vraiment. En fait, la décision à prendre, c'est rester ou quitter le pays. C'est parce que ça n'empêche pas de vivre en Russie, d'être agent de l'étranger. Par contre, ça veut dire remplir une paperasse, une documentation incroyable, parce que vous devez déclarer chaque rouble que vous dépensez et que vous recevez.
Tu vas chercher le pain, tu le déclares.
Tu vas chercher le pain, t'as une feuille à remplir pour dire j'ai dépensé tel nombre de roubles pour acheter mon pain. Et donc, j'avais vu une photo une fois de quelqu'un qui était agent de l'étranger qui s'apprêtait à envoyer son dossier mensuel aux autorités. Et c'est une pile de feuilles incroyable parce qu'en fait, oui, ça s'accumule pendant tout le mois. Donc, c'est pénible. Il faut le tenir à jour, sinon vous avez de grosses amendes. Et il faut le préciser aussi, vous devez. Afficher, c'est-à-dire que vous êtes un bouc émissaire et vous devez l'afficher, que vous êtes ciblé par les autorités. Vous devez notamment à chaque fois vous exprimer. Si vous écrivez un livre, un article, un tweet, n'importe quelle publication sur Internet, vous devez ajouter un bloc de texte qui fait 4, 5, 6 lignes dans lequel vous expliquez que selon la loi sur les agents de l'étranger, vous avez été nommé à telle date agent de l'étranger, donc que vous devez de respecter toutes les conditions de cette loi. Enfin, c'est voilà, un bloc de texte.
Par exemple, tu es opposant ou déclaré agent de l'étranger, ce qui ne veut pas dire nécessairement un opposant déclaré, c'est juste qu'on a décidé pour toi que tu seras un agent de l'étranger et tu veux publier sur X 240 signes. Et en fait, il y en a déjà 200 qui sont pris c'est par ce que tu viens de dire.
Ton premier tweet, il passe, en gros. Donc moi, je suis des gens sur Twitter hein, qui, à chaque fois qu'ils tweetent, je vois apparaître leur gros bloc parce qu'en plus, il faut que ce soit en majuscule. Il y a une police particulière à utiliser et sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit écrit en majuscule. Donc tu vois apparaître un gros texte sur Twitter régulièrement. Généralement, il leur reste de la place pour quelques mots en dessous et donc ils continuent ce qu'ils ont à dire dans les tweets en dessous. Mais c'est effectivement assez contraignant. Alors des fois, il y en a qui essayent de jouer avec ça, qui essayent d'expliquer. Bah, en gros, voilà, ils disent que je suis agent de l'étranger, mais je ne le suis pas vraiment. Alors c'est interdit de le dire comme ça, donc il faut être plus subtil que ça, parce que vous devez assumer le fait que vous êtes agent de l'étranger. Et quand ce n'est pas le cas, vous finissez devant un tribunal. Moi, je me rappelle d'affaires de personnes qui avaient publié un livre et qui n'avaient pas, en gros, pour une date de publication, ils avaient été nommés agents de l'étranger entre-temps, je ne sais plus, mais en gros, le texte n'apparaissait pas dans le livre et derrière, ils ont fini au tribunal. Donc, vous risquez des amendes, mais qui sont de plus en plus élevées. Et je crois que ça peut aller jusqu'à la prison si vous continuez à résister au système, en gros. Voilà, l'idée, c'est d'écraser toutes ces personnes qui sont nommées agents de l'étranger.
En commençant par les harceler, justement, notamment, c'est du harcèlement administratif, presque. On pense évidemment à ceux qui... aux journalistes, à ceux qui sont dans des associations, mais pour le Kidam russe, il y a une vraie crainte à être sur ces listes ou pas ?
Alors, je pense que le russe moyen, il va surtout adhérer à l'objectif de cette loi, c'est-à-dire qu'il va se dire, si cette personne-là est accusée d'être agent de l'étranger, c'est qu'elle représente effectivement un risque d'ingérence dans notre pays. Ça veut dire que des ennemis de la Russie, parce que étranger égale ennemi dans beaucoup de têtes en Russie, tentent bel et bien de déstabiliser le pays de l'intérieur par ce genre de personnes. Moi, j'ai eu cette discussion, c'était d'ailleurs l'objet de notre précédent podcast, dans mon fameux train, en discutant avec des Russes. Il y a un moment, on parlait du patriotisme en Russie. Chacun a sa définition du patriotisme, mais je leur expliquais, vous avez une organisation en Russie qui s'appelle Mémorial. Pour moi, eux, ce sont de vrais patriotes. Ce sont des gens qui essaient de protéger l'histoire de votre pays, de pousser le pays à se retourner sur son histoire pour mieux se développer et mieux grandir. Et eux m'ont répondu, mais eux, ils sont agents de l'étranger, et puis ce sont des traîtres, ils sont payés par l'étranger, ce sont des ennemis de la Russie. Et je pense que ça marche pour une grande partie de la population, qui de toute façon, je pense, généralement ne connaît même pas les gens qui sont agents de l'étranger. Ce sont des opposants que nous, on connaît à Moscou, des médias qu'on connaît à Moscou, mais que le grand public ne connaît pas forcément. Donc ils se disent par réflexe que s'ils sont accusés d'être agents de l'étranger, c'est qu'ils le sont, et qu'ils se rendent coupables ou sont accusés d'avoir voulu déstabiliser leur pays. Donc le russe lambda n'a pas peur d'être nommé agent de l'étranger. Je pense qu'il ne prendrait pas le risque de parler à un agent de l'étranger, mais par contre, il adhère certainement à cette définition des choses. Après, il y a le russe lambda, pas tout à fait lambda, qui va un peu s'opposer au Kremlin, où là, typiquement, ces derniers jours, les maires de mobilisés qui sont donc nommés agents de l'étranger, ce sont des Russes lambda. Pour le coup, ce sont juste des femmes qui vont demander à ce que leur mari rentre du front. Elles ont payé les conséquences depuis plusieurs mois avec une grosse pression de la part des autorités russes. Et cette pression se caractérise aujourd'hui avec ce statut d'agent de l'étranger qui leur est attribué. Donc c'est la preuve que ça peut aussi toucher un russe normal, n'importe quel russe. Mais ça, les Russes n'en sont pas conscients.
Mais on voit bien le biais politique du Kremlin et de Vladimir Poutine depuis des années. Dans ce que j'entends dans tes définitions et tes cas concrets, un homme du Daghestan islamiste radical n'est pas considéré forcément comme un agent de l'étranger. Non, l'agent de l'étranger, c'est celui qui est financé, payé par l'Occident. Je vais jusqu'au bout un petit peu la définition concrète. Qu'est-ce qui fait que dans la tête de Poutine et des gens qui le suivent, celui qui est payé par l'étranger, la notion de financement occidental est aussi forte dans tout ce qui revient. Et tu le disais dans la conversation avec ces psychologues russes dans le train depuis Rostov. Qu'est-ce qui fait pourquoi cette obsession de l'argent occidental ?
C'est le cœur de la question et je me pose souvent cette question parce que je ne comprends pas moi-même d'où ça peut leur venir. Je pense que avoir vécu en URSS peut aider à comprendre cet état d'esprit. De toute façon, ça vient des autorités russes. Je veux dire, tout ça vient du pouvoir qui, à un moment donné, a dû chercher et trouver des moyens de se débarrasser de plein d'ONG internationales qui étaient présentes en Russie et qui, donc, par définition, recevaient de l'argent de l'étranger pour pouvoir financer leurs activités sur place. Il y a un moment, les autorités vont considérer que tout est une ingérence et donc... quelque part, un centre culturel d'un pays étranger, bah, c'est une ingérence. Enfin, si on tire le truc jusqu'au bout, à partir du moment où vous apprenez, vous donnez des cours d'une langue en Russie, eh bien, pour les autorités russes, aujourd'hui, ça va être considéré comme une volonté de diffuser une culture qui n'est pas celle de la culture russe, en gros.
Mais encore, ça dépend. J'imagine que si tu viens apprendre le français, on va te regarder bizarrement. Si tu viens apprendre le chinois, étonnamment, tout va bien.
Oui.
Non, pas forcément. Je
réfléchissais parce que il y a quelque chose. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ou pas, mais en gros, je sais que certaines personnes se font très discrètes sur le fait que depuis le début de la guerre en 2022, beaucoup de Russes demandent à apprendre le français, ce qui peut être interprété de plein de façons différentes. Ces personnes-là croisent les doigts pour que ce soit encore possible dans les temps à venir, pour dire ça comme ça. De facto, de nos jours, avec une Russie qui se referme totalement sur elle-même, c'est vrai que donner un cours de français en Russie, c'est... je ne sais pas si c'est une ingérence, mais en tout cas, c'est une façon d'essayer de... ouvrir un peu le pays de force, on va dire, de l'extérieur, par notre langue, par notre culture, ce qui ne devrait pas être vu comme ça. Tous les pays du monde ont leur centre culturel à Paris. Et
on connaît les liens en plus culturels, historiques, oui, entre la France et la Russie. C'est ça qui est totalement dingue. J'ai une question également. Est-ce qu'on peut sortir de la liste des agents de l'étranger ?
C'est le flou de cette loi. C'est vrai que c'est intéressant. C'est-à-dire que a priori, non. Alors, c'est la justice qui peut décider d'en sortir ou non. Je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui serait parvenu à en sortir. Évidemment, généralement, quand les personnes concernées découvrent leur nom sur cette liste, ça part au tribunal, hein, quand même. Généralement, il y a une tentative de...
transparence. De justice.
Oui, de justesse, de réclamer de la transparence, de comprendre pourquoi ils sont sur cette liste, et puis de faire appel, en gros, à cette inscription. Ça ne fonctionne jamais, évidemment. Mais effectivement, a priori, on ne peut pas en sortir. Donc, pour l'instant, c'est vraiment une étiquette à vie, quoi, qu'on vous colle quand vous êtes agent de l'étranger. Et donc, ça vous pousse, dans tous les cas, à vous poser la question de votre futur. Est-ce que vous le faites, vous continuez à vivre en Russie ou non ? Vous ne pouvez pas savoir comment les agents de l'étranger vont être traités dans les temps à venir. Peut-être que de nouvelles règles, de nouvelles lois vont apparaître autour de ces agents de l'étranger. Des règles pas forcément officielles. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, c'est peut-être déjà le cas, je ne sais pas d'ailleurs, un agent de l'étranger qui passe la frontière russe aura un interrogatoire avec le FSB obligatoire. Peut-être que ça sonne sur les ordis du FSB, on leur dit « voilà, lui, il est agent de l'étranger, interrogatoire ». Ça peut rendre votre vie très pénible, en fait. Donc non, c'est quelque chose, une fois que vous êtes nommé, c'est pas rien, c'est pas symbolique, parce que j'ai eu la discussion parfois en France, pour le coup, avec des gens qui disent, bon, ça va, ils sont accusés d'être agents de l'étranger, qu'est-ce que ça implique ? Pas grand-chose, ils peuvent toujours vivre librement en Russie. Non, ça a des vraies conséquences sur votre quotidien, vous pouvez plus avoir d'activité politique, journalistique, vous pouvez plus faire grand-chose, en fait.
Et puis t'as un panneau sur le front, quoi, grosso modo, puisque tout le monde le sait.
C'est ça, c'est un panneau sur le front qui fait quand même peur à beaucoup de monde. Vous ne pouvez plus vivre, travailler, on vous élimine et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, ça, c'est vraiment, vous êtes la marque, la personnification même dans votre pays de l'ennemi, parce que finalement l'ennemi il n'est pas très visible, les Américains par exemple en Russie il n'y en a pas beaucoup, et vous êtes vraiment l'ennemi du peuple, la cinquième colonne, enfin on en revient à tout ce genre de choses, en fait ça ouvre tout ça derrière, et c'est cette logique, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait c'est derrière, le pouvoir a besoin de ça pour justifier beaucoup de choses, et évidemment avec cette guerre en Ukraine, encore plus aujourd'hui, on a besoin d'un ennemi commun, on a besoin que la population croie en cet ennemi étranger extérieur qui existe. Et là, bah, ces gens-là, ces agents de l'étranger en sont la personnification. Mais c'est vrai que c'est fascinant pour moi de voir que quelqu'un qui va s'opposer politiquement au Kremlin, personne ne va se dire que c'est possible, en fait, d'être contre le pouvoir russe en Russie. Tout le monde va se dire, mais il a forcément de mauvaises intentions s'il est contre Vladimir Poutine. Et donc, mauvaise intention égale, il a reçu de l'argent de l'étranger. C'est la logique de cette loi.
Une toute dernière question, pour revenir en fait au point de départ, qui est la loi en Géorgie. Toi qui connais tout ce monde-là post-soviétique, il y a eu des tentatives de déstabilisation russe, justement, des agents de l'étranger russes, dans un certain nombre de pays. On a essayé de déstabiliser la Moldavie. Est-ce que ça t'a étonné qu'en Géorgie, on passe par ça pour déstabiliser un État, c'est-à-dire mettre des lois russes, grosso modo, on s'est ingéré dans le pouvoir législatif au Parlement géorgien?
Alors, l'actualité géorgienne est toujours assez surprenante. C'est parfois un peu incompréhensible parce qu'on a toujours la sensation qu'il y a une population pro-européenne et un pouvoir pro-russe. Et effectivement, c'est visiblement ce qui s'est un peu passé. C'est que la Russie a, d'une façon ou d'une autre, eu un peu son mot à dire. En tout cas, elle a contribué à ce que cette loi apparaisse et soit votée. Donc, c'est pas courant, finalement, d'avoir... De s'ingérer avec une loi, en fait, parce que déjà c'est pas possible dans tous les pays du monde. On comprend que c'est des choses qu'on peut faire que dans les pays d'ex-URSS où la Russie a encore ses marques, a encore ses relais. Mais en Géorgie, c'est assez étonnant. Là, je voyais aujourd'hui que en Serbie, par exemple, il y a une loi des agents de l'étranger qui devait être votée la semaine dernière et finalement elle est tombée à l'eau. Parce que cette loi est vraiment devenue le symbole d'une dictature. Or, la Serbie voulait garder les portes ouvertes avec l'Europe. Et donc, ils ont décidé de balayer cette loi pour le moment. Et donc, c'est assez intéressant comment finalement cette loi est devenue juste l'image d'un système politique, une dictature, l'image de la dictature russe dont les démocrates ne veulent pas que ce soit en Russie ou autour de la Russie.
Et c'est encore un exemple auquel on n'avait pas pensé de la guerre hybride russe contre l'Occident. Merci beaucoup, Paul, et à la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast original sur BFM Radio, bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.